Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors cette semaine, qu'est-ce que je vous ai préparé ? Eh bien, je vous ai préparé un extrait du dernier livre que j'ai lu qui s'appelle « L'amour au bureau, le vivre et le gérer ou pas » de Rodolphe Foineau. Rodolphe Foineau, il est docteur S-lettres de l'Université Paris-Sorbonne, s'il vous plaît, n'est-ce pas ? Et il est aussi auteur et journaliste. Il avait écrit un premier livre, « La tentation libertine », dont j'ai déjà fait un podcast, qui était en fait un recueil de témoignages. Il avait interviewé des gens autour de leur pratique du libertinage et ça permettait d'avoir une idée de ce que c'était pour la plupart des gens. Et ça permettait aussi de voir, au-delà des grands discours qui disent que tout est merveilleux dans le libertinage ou que tout est pourri dans le libertinage, d'avoir un petit peu une vision avec des témoignages de gens qui le pratiquent et de vrais gens issus de milieux différents qui le font pour des raisons différentes, etc. etc. Là, Rodolphe Foineau continue son travail d'investigation. La sexualité est un sujet qui l'intéresse. Et il s'est intéressé au mélange des relations, au mélange des genres, c'est-à-dire amour au bureau, relations sexuelles au bureau. Alors, amour, il n'est pas beaucoup question d'amour, un petit peu. Il y a des histoires d'amour au milieu, mais il y a aussi pas mal de relations sexuelles où, en fait, se jouent beaucoup, beaucoup de choses. Des rapports de domination, de pouvoir, il y a des relations sexuelles un petit peu forcées, il y a des relations sexuelles volontaires, il y a des relations... Enfin, c'est assez varié. On sent bien l'effet après MeToo avec des femmes et des hommes qui regrettent qu'on ne puisse plus se séduire sur le lieu de travail. D'autres qui, au contraire, disent qu'il y a beaucoup trop de salauds, c'est surtout des femmes qui disent ça, qui forcent et il faut qu'on continue à faire la traque aux salauds. Donc, tout ça est un petit peu mélangé. Moi, ce que j'aime bien, c'est que à travers ces 17 témoignages, on a un espèce de petit puzzle qui se dessine. Il y a aussi bien des hommes que des femmes qui témoignent, même s'il y a quand même une plus grosse majorité de femmes. Et il y a plein de milieux socio-professionnels différents. Il va interviewer une visiteuse médicale, ou alors, alors là, les relations sexuelles, visiteuse médicale et relations sexuelles, c'est un petit peu « olé hein !» Je savais déjà, il est de notoriété publique, que beaucoup de visiteuses médicales se font grave brancher par les médecins, mais tout comme beaucoup de visiteuses médicales branchent pour vendre leur médoc, en fait. C'est un petit peu compliqué, mais c'est pas que de la légende. Le milieu hospitalier aussi, où là, apparemment, ça baise à tire-larigot dans tout ce qui est milieu médical. Mais on découvre aussi le milieu de l'enseignement, que ce soit l'enseignement supérieur ou l'enseignement collège-lycée. Il y a aussi le milieu un petit peu journaliste, showbiz, acteur-actrice. Il y a le milieu en entreprise de base, petite entreprise, grosse entreprise. Tu es en bas de l'échelle, tu es en haut de l'échelle, le patron, la petite employée. Bref, c'est super vaste. 17 interviews de gens qui témoignent et qui permettent de se faire un petit peu une idée de comment s'imbriquent les relations de sexe et de travail, et comment au milieu, en fait, moi ce que j'ai senti c'est qu'il y a un truc de... Il y a un petit peu de morale au milieu tout le temps qui traîne, de c'est bien, c'est pas bien, du jugement, du j'ai envie mais j'ose pas, j'ai envie mais je regrette, je l'ai fait parce que en fait j'avais envie d'avoir autre chose. Voilà, à vous de vous faire une idée. En attendant, je vous ai sélectionné un témoignage que j'ai adoré, qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle « Auxiliaire de vie ». C'est Rachel qui témoigne. Alors, tous les prénoms ont été changés, donc le prénom d'emprunt, c'est Rachel. Je vous lis ce témoignage. Vous allez voir, j'adore. De galère en galère, Rachel enchaîne les petits boulots en croyant échapper à la cruauté de son sort, avec l'humour en désespoir de cause. Tant qu'il y aura des hommes... Dans quel secteur d'activité évoluez-vous ? Rachel. J'ai commencé à travailler dans une société de multiservices à laquelle des entreprises faisaient appel pour le nettoyage ou l'entretien courant de leurs locaux. Nous intervenions dans des bureaux principalement et aussi dans quelques grosses boutiques ou salons de coiffure avant l'ouverture ou après la fermeture au personnel et à la clientèle. Travail difficile ? Ah, physiquement, ce n'est pas de tout repos. Il faut tout faire vite. La boîte a beau vous payer au lance-pierre, elle doit faire du volume pour dégager des bénéfices. On est donc soumis à un rythme infernal. Mais c'est surtout mentalement que c'est dur. Faire le ménage n'est pas très valorisant. Et l'hiver, c'est déprimant de se retrouver dans le froid, alors que le jour ne pointe pas encore, et de reprendre sa deuxième partie de journée de travail le soir, lorsque les bureaux sont désertés, les magasins fermés et la nuit tombée. Mais il me fallait gagner ma vie. Comment se comportaient vos collègues avec vous ? Mal. Le chef des chantiers était un homme entreprenant qui aurait bien aimé m'en donner un petit coup. Par deux fois, un matin, il est venu se frotter contre moi par surprise, alors que je chargeais du matériel dans une camionnette et que j'avais les mains prises. Comme je n'ai pas cédé, et que c'est lui qui composait les équipes, j'en ai bavé. Il me mettait toujours en binôme avec des mecs pas possibles. Pour se venger et soigner ma réputation, il avait dû leur dire que j'étais un bon coup. Résultat, j'étais en permanence harcelée. J'ai fini par quitter la boîte. Aviez-vous par ailleurs une vie personnelle harmonieuse ? J'enchaînais plutôt galère sur galère. J'ai rencontré un sale type qui a tenté de vivre à mes crochets. Il était violent et exigeait que l'argent rentre. Dans une autre vie, il avait dû être proxo. J'ai multiplié les petits boulots en alternance avec des stages de formation et le soir, ce n'était pas la Dolce Vita. Non seulement il voulait tout le temps baiser, mais en plus il me cognait. J'ai eu bien du mal à m'en défaire. Comme je n'avais plus d'hébergement, j'ai essayé de trouver une piaule contre des heures de ménage. Je suis tombée sur des tonnes d'annonces dans des rubriques intitulées « Logement contre service ». C'est une niche qui exploite la misère de pauvres filles en détresse. Pour une ou deux annonces sérieuses, on trouve 100 arnaques d'hommes seuls qui proposent de vous héberger à condition de coucher avec eux. En plus de faire le ménage, de préférence en petite tenue, j'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai finalement quitté la région parisienne pour aller rejoindre ma sœur dans le sud de la France. Ne dit-on pas que la misère est moins pénible au soleil ? Vous confirmez ? Pas trop, non. J'ai pensé un temps trouver ma voie en devenant auxiliaire de vie. Cela présente l'avantage d'être logé si l'on assure des gardes de nuit. Ça m'a semblé cool. Une association de bénévoles féministes m'a aidée. J'ai suivi une formation qualifiante et effectué quelques stages en EHPAD. Puis, j'ai intégré une agence spécialisée proposant des services sur mesure à des particuliers. Naturellement, l'agence se servait au passage, mais au moins, j'étais protégée et ne risquais plus de tomber sur des vicieux comme lorsqu'on répond à des annonces en direct. Là, on est placé par l'agence qui dispose d'un fichier client. L'authenticité des demandes est vérifiée et les services sont personnalisés et facturés suivant une nomenclature rigoureuse. Je me suis occupée d'abord d'une petite mamie de 82 ans. J'avais l'impression de retrouver ma grand-mère disparue chez qui je passais de 12 vacances quand j'étais enfant. Je lui donnais à goûter, elle adorait les confitures. Nous nous entendions bien. Je crois vraiment qu'elle m'appréciait. Cela a duré quelques mois jusqu'à son hospitalisation. J'ai dû me mettre alors en quête d'autre chose. J'ai atterri chez un papy. Il n'avait pas l'air bien méchant, mais il avait perdu l'usage de la parole à la suite d'une hémiplégie. Il restait planté devant la télévision des heures durant. Les journées semblaient interminables. Il ne pouvait ni se déshabiller, ni s'habiller seul. L'aider dans ses tâches faisait partie de ma mission, comme lui préparer ses repas et le faire manger. Je devais aussi lui faire sa toilette en cours de matinée. Un moment délicat ? Les premières fois, oui. Je ne savais pas comment m'y prendre. D'autant que je devais le laver entièrement. Je n'avais connu que des hommes circoncis. J'ai dû apprendre à le décaloter. J'avais peur de le blesser. Puis j'ai compris que, non seulement je ne lui faisais pas mal, mais qu'il attendait que je m'occupe de lui avec impatience. Je l'ai dit, il ne pouvait plus parler, mais quand je le déshabillais, il avait le regard plus intense. Il me fixait ardemment. Un jour, il a tendu la main, celle qui pouvait encore bouger, quoique assez difficilement, pour me toucher la poitrine. Je lui ai dit « Monsieur Antoine, calmez-vous, à votre âge !» Mais ça m'a amusée. Et puis j'ai pensé qu'avec lui, je ne risquais rien. Ne parlant plus, il n'allait pas aller raconter la chose. Alors j'ai déboutonné largement ma blouse pour qu'il se rince l'œil. Il a eu l'air content. De retour dans le séjour, il m'a fait signe d'ouvrir un tiroir du buffet, puis il a insisté pour que je prenne un billet dans une boîte à bonbons qui lui servait de tirelire. Je n'ai pas cherché à le contrarier. Et à partir de ce jour-là, nous avons continué assez régulièrement de faire ensemble nos petites affaires. Qu'est-ce qui vous motivait ? Le beurre dans les épinards ou l'incongruité de la situation ? Les deux. Sa toilette intime est devenue un réel moment de complicité entre nous. Au début, je le savonnais avec un gant. Je m'appliquais pour que la crème douche mousse bien. Quand j'ai vu qu'il réagissait aux caresses et qu'il semblait émoustillé, autant que son état le permit, il n'allait pas imaginer des miracles. Ça m'a encouragée à aller plus loin. par jeu. On ose imaginer où s'est arrêtée votre audace. J'ai fini par lui faire sa toilette sans gants, à main nue, en malaxant son sexe entre mes doigts et en jouant avec ses boules d'Hécati. Une ou deux fois, j'ai cru que j'arriverais à lui ressusciter le coquelicot. Mais non. Ensuite, je le séchais et le talquais avant de l'habiller. Puis, je recevais ma petite gratification. Jusqu'au jour où la tirelire s'est trouvée à sec. Mais je ne lui ai rien dit. Et j'ai continué de procéder comme si de rien n'était. J'ai toujours eu le cœur sur la main. Pendant combien de temps vous êtes-vous occupé de lui ? Environ 6 mois. Son fils a décidé soudain de le placer dans une maison médicalisée spécialisée dans l'accueil de personnes âgées dépendantes. Cela m'a vraiment fait de la peine. Peut-être pense-t-il encore quelquefois à moi, son auxiliaire de vie. Voilà, c'était l'interview de Rachel, auxiliaire de vie. Donc c'est le 7e interview dans le livre « L'amour au bureau » de Rodolphe Foineau. J'aime beaucoup cette interview. Alors, il y a tout le truc où tu vois que quand tu as des petits boulots, ça arrive souvent à la pression, le « vas-y, je vais te serrer, tu veux pas, du coup, je vais te rendre la vie impossible » ou alors le truc de « oh, mais je peux vous loger gratuitement, en échange, vous couchez avec moi ». Je dirais que voilà, ils tentent, hein, c'est pas très cool, mais on n'est pas obligé d'accepter. Et on voit bien que là, Rachel a dit « non, quoi ». Et que là, ce qui se passe, pour le coup, moi, il est question d'amour et pas de sexe au bureau avec ce petit papy parce que je trouve ça vraiment touchant. Maintenant, je vais vous lire un extrait d'un autre témoignage que j'ai trouvé dans ce livre. Alors là, attention, il y en a qui vont bondir. Je vous le dis d'entrée de jeu. C'est le témoignage d'un chef d'entreprise qui s'appelle Guillaume, qui a un certain âge, et qui est... d'ailleurs, le titre de l'interview s'appelle « Weinstein m'a tué ». Parce qu'en fait, il est... C'est une horreur pour toutes les féministes, vraiment, ça va hurler dans les chaumières, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça génial, c'est qu'on a tous les interviews qui sont présentées dans ce bouquin. Il y a toutes sortes de profils, en fait. Il y a des femmes abusées, il y a des femmes qui chassent, il y a des hommes qui aimeraient bien être abusés, il y a des hommes qui abusent clairement, et il y a des hommes qui disent « moi, je propose, mon système, il est, vous le trouvez pourri ou pas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, quoi ». C'est un petit peu le cas de Guillaume, qui, lui... Alors, sur la question du sexisme, etc., ne se pose pas la question. Après, voilà, il regrette le temps d'avant Weinstein, où il pouvait faire un petit peu comme il voulait, sachant qu'il n'a jamais forcé personne. Mais voilà un petit peu ses méthodes de travail. Je vais vous faire découvrir ça. Attention, il y en a qui vont hurler. Moi, j'avoue que ça m'a fait rire parce que ça m'a fait rire et ça m'a fait rire de pouvoir le lire dans ce bouquin, en fait. Donc, merci à Rodolphe Foineau d'avoir rien censuré et d'avoir fait un recueil de témoignages qui sont aussi variés que possible. Donc, l'interview de Guillaume qui s'appelle « Weinstein m'a tué ». La sexualité débridée et phallocentrée est au cœur du management de Guillaume, chef d'entreprise à qui tout réussit. Un comportement édifiant qui paraît menacé depuis l'émergence de Balance ton porc. Pourquoi déclarez-vous être un dinosaure ? Guillaume, mais c'est une façon de parler. J'aurais pu aussi bien évoquer le dernier des Mohicans. Je veux dire par là que le comportement qui a été le mien durant toute ma carrière professionnelle renvoie à un autre âge. Comme dirait l'autre, Weinstein m'a tué. Une prise de conscience venue d'outre-Atlantique a secoué la société à l'occasion de cette affaire. En France, nous sommes victimes d'une réplique. Vous faites allusion au hashtag « balance ton porc » et « MeToo » et à la mobilisation générale contre le sexisme ? Ces mouvements sont certainement les plus emblématiques des manifestations du phénomène. Plus rien n'est possible au sein de l'entreprise. Le travail est devenu asexuel. Sauf à prendre le risque de se retrouver au trou, et pas celui qu'on pense. Vous semblez ravagé. Comment ne pas l'être ? Les expressions « French lover » ou « French kiss » avaient force de label. Une certaine forme de galanterie était considérée depuis des siècles comme une exception culturelle française. Or, la drague est désormais interdite. Regarder une femme avec insistance est un délit. L'interpeller dans la rue, une violation. La prendre par le coude ou l'embrasser, une tentative de viol, on croit rêver. Comprenez-moi bien. Je ne prône pas le harcèlement et je condamne sans appel les agressions sexuelles. Ne mélangeons pas tout. Je revendique seulement le droit d'essayer de séduire. Quel que soit le genre sexuel, quel que soit le cadre, privé, professionnel, public. Mes déclarations vont me faire passer pour le plus rétrograde des sexistes, l'homme à abattre, le pourfendeur de vulve auquel il faut arracher les couilles. Mais putain, qu'est-ce qu'on s'est bien amusé ? Quel est votre plus ancien souvenir liant le monde du travail à la sexualité ? Mon premier job d'été. J'étais étudiant à Sciences Po. J'aurais bien aimé me la couler douce pendant les vacances et aller voir les petites Anglaises, comme on le faisait à l'époque. Mais mes parents avaient souhaité que je me fasse de l'argent de poche. J'ai trouvé un emploi de majordome dans une grande maison sur la Côte d'Azur. Vous aviez les compétences techniques ? Sans doute. Non par les études de droit et de relations internationales que je suivais, mais par l'éducation que j'avais reçue. Un chef privé préparait les repas, dont j'assurais le service du soir. Je m'occupais aussi des rafraîchissements de ces dames l'après-midi. De ces dames ? Expliquez-nous. La maison était louée par un grand patron d'industrie qui y recevait des amis et de riches clients. Que des couples, ou du moins des hommes bien accompagnés et qui partageaient tout, si vous me comprenez. Dès le matin, les hommes partaient faire du bateau. Les filles traînaient à leur rythme toute la matinée, souvent je ne les voyais même pas. Je servais une collation à 13h, puis elles passaient l'après-midi ensemble à papoter et à bronzer autour de la piscine. Totalement à poil, même le string était interdit. Monsieur Ben, c'était le nom de mon employeur, était intraitable sur ce point. Il ne voulait pas de démarcation et imposait l'épilation intégrale, à l'orientale. Quand les hommes rentraient de leur excursion en bateau, ils retrouvaient les femmes nues autour de la piscine. Monsieur Ben faisait alors placer autour du bassin des matelas sur lesquels elles prenaient place à quatre pattes, les yeux bandés. Chacune avait un numéro inscrit, au rouge à lèvres, sur les fesses. Quel spectacle déjà ! Vous imaginez le tableau ! Puis les hommes jouaient à la loterie en lançant un dé. Si le type tombait sur le 2, il rejoignait la fille correspondante et devait la prendre le temps qu'un sablier s'écoule, sans venir. Puis le suivant lançait le dé à son tour, et ainsi de suite. Si le même chiffre sortait deux fois de suite, la fille enchaînait tandis que ses copines attendaient leur tour. Elles ne savaient ni quand elles seraient prises, ni qui les prendrait. Ces types étaient éliminés quand ils jouissaient. Celui qui avait su se retenir le plus longtemps était déclaré vainqueur. Des plaisirs simples, tout compte fait. Rire. Comment étaient ces femmes ? Des bombes. Type poupées russes. Était-ce des épouses libertines ou des recrues additionnelles de circonstances ? Souvenez-vous de l'argument de défense d'un ex-homme politique accusé de proxénétisme parce que les partenaires de parties fines auxquelles il avait participé étaient des escortes. Il a plaidé l'ignorance, soutenant qu'il pensait avoir affaire à des libertines. On était probablement dans le même registre. Quel rôle vous était dévolu dans ces jeux ? Aucun. Juste apporter les boissons et veiller à ce que tout soit en ordre. Surtout ne pas toucher. Un vrai supplice de Tantale. Dans d'autres circonstances, on aurait trouvé ces scènes sordides, mais ce n'était pas une tournante de cité. Je travaillais dans une maison magnifique, face à la mer, au cœur de l'hyperluxe et des plaisirs interdits. J'ai tiré de cette expérience de jeunesse une représentation très personnelle de la permissivité et de la sexualité. Voilà, l'interview continue. Je vous laisse découvrir la suite dans le livre de Rodolphe Foineau qui s'appelle « L'amour au bureau, le vivre et le gérer ou pas ». La suite qui est comment cette première expérience de travail a teinté toute la vie professionnelle de Guillaume, ce chef d'entreprise. Je vous laisse l'imaginer. Si vous n'imaginez pas, croyez-moi, lisez le témoignage, c'est édifiant. En tout cas, merci à Rodolphe Foineau pour sa confiance et pour m'avoir fait parvenir son livre « L'amour au bureau ». C'est donc un recueil de 17 témoignages d'hommes, de femmes, de milieux socio-professionnels radicalement différents qui tous témoignent du rapport entre sexualité et travail, que ce soit dans un bureau, dans un cabinet médical, dans une salle de classe, sur un plateau de télévision. On circule vraiment dans beaucoup d'univers de travail et dans beaucoup de rapports personnels au sexe et au travail. Il y en a qui trouvent ça génial, il y en a qui ne supportent pas, il y en a qui ont été forcés, il y en a qui ont chassé. Bref, un panel très complet qui permet de se faire une petite idée et qui surtout soulève plein de questions. Moi, ça m'a posé plein de questions sur la permanence de la morale, en fait, aussi. Il y a des gens qui sont OK au départ et qui d'un coup se disent « Oh non, mais mon Dieu, je ne peux pas, c'est mal !» et qui, du coup, vont se juger. Il y a aussi la place de l'homme, de la femme là-dedans, dans tout ça, et le côté aussi, si on arrête de se placer moi en tant que femme, je me dis si j'arrête de me placer en victime et que je me dis que la femme est un homme comme les autres. J'ai moi-même été confrontée à des propositions pas du tout déguisées, que j'ai refusé, j'ai eu le choix et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors après coup, si, ce que j'ai fait, je me suis dit, attendez les gars, mon métier au départ c'est comédienne, c'est pas pute, donc vous voulez tous mon cul? Eh ben je vais faire cam girl, au moins c'est moi qui loue mon cul et qui décide du prix. Ça a été ma manière de réagir, voilà. Je vous en dis plus bientôt, vous allez avoir une petite série d'articles, je pense, de réflexions que m'ont inspiré ce livre de Rodolphe Foineau. Alors, pour vous l'offrir, rendez-vous sur mon site lec.charlie-liveshow.com. Comme à chaque fois, je mets tous les liens sur l'article qui présente la lecture du jour, de manière à ce que vous puissiez vous offrir les livres qui vous intéressent, dont vous avez entendu un extrait. C'est aussi sur mon site que vous pourrez réécouter tous les précédents podcasts de lectures érotiques. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Si vous aimez ce podcast, si vous aimez les lectures érotiques de Charlie, n'hésitez pas à soutenir les lectures érotiques de Charlie en devenant Patreon. Vous pouvez mettre ne serait-ce qu'un euro par mois. C'est un soutien concret qui va me permettre, j'ai besoin là de renouveler mon matériel d'enregistrement. Et ben voilà, ce genre de choses, ça aide. Donc merci à vous d'avance. Le lien de mon Patreon est également sur mon site lec.charlie-liveshow.com. Cet épisode est terminé. Eh oui, je sais, ça y est, on arrive à la fin. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.